Chapitre 6. Avant d'aller plus loin, il est bon de faire plus ample connaissance avec le nouveau personnage que nous venons de voir. Don Modesto Guerrero était le fils d'un honnête campagnard qui ne laissait pas que d'avoir de bons titres de noblesse lorsqu'ils furent brûlés par les Français pendant la guerre de l'indépendance, ainsi que sa maison, sous le prétexte que les fils du propriétaire étaient brigands, c'est-à-dire coupables du grand crime de défendre leur patrie. Le brave homme trouva le moyen de reconstruire sa maison, mais les parchemins n'eurent pas le sort du phénix qui renaissait de ses cendres. Modeste tomba au sort, et comme son père n'était pas assez riche pour lui acheter un remplaçant, il entra dans un régiment d'infanterie à titre de soldat noble. Comme il était simple d'esprit et en même temps long et maigre, il lui arriva promptement de devenir l'objet des sarcasmes et des lourdes plaisanteries de ses camarades. Ceux-ci, enhardis par sa douceur, poussèrent à l'excès leur moquerie, jusqu'à ce que Modesto imite un terme de la façon suivante. Un jour qu'il y avait grand exercice à l'occasion d'une revue, Modesto était placé à l'extrémité d'un rang. Il y avait près de là une charrette. Adroitement, ses camarades lui passèrent en le coulant à une jambe et attachèrent l'extrémité de la corde à une des roues de la charrette. Les tambours battirent et toutes les files se mirent en marche, à l'exception de Modesto qui resta arrêté, avec une jambe en l'air, comme les sculpteurs représentent Zéphyr. Après la revue, Modesto rentra au quartier, aussi calme qu'il en était sorti, et sans hâter le pas, il alla demander satisfaction à ses camarades. Comme personne ne voulait endosser la responsabilité de la mystification, il déclara qu'il se battrait avec chacun d'eux, l'un après l'autre. Alors celui qui avait inventé et dirigé la mauvaise plaisanterie se présenta. Ils se battirent et le mystificateur perdit un œil et Modesto lui dit, toujours avec le même calme, que s'il voulait perdre l'autre, il se mettrait à sa disposition. Cependant, Modesto, sans parents ni protecteurs à la cour, sans ambition ni disposition pour l'intrigue, suivit sa carrière à pas de tortue jusqu'au moment du siège de Gaète en 1805, où son régiment reçut l'ordre de se joindre comme auxiliaire aux troupes de Napoléon. Modeste s'y distingua par sa bravoure et son sang-froid, si bien qu'il mérita la croix et les plus grands éloges de ses chefs. Son nom brilla dans la gazette comme un météore pour retomber ensuite dans une éternelle obscurité. Ses lauriers furent les premiers et les derniers qu'il recueillit dans sa carrière militaire, parce qu'ayant reçu une grave blessure à un bras, il demeura impropre au service. Et comme récompense, on le nomma commandant du petit fort abandonné de Saint-Christophe. Il y avait 40 ans qu'il avait sous ses ordres un squelette de château et une garnison de lézards. Au commencement, notre guerrier ne pouvait se résigner à cet abandon. Il ne se passait pas d'années sans qu'il adressât des représentations au gouvernement, réclamant les réparations nécessaires et les canons, et la troupe convenable pour ce point de défense. Toutes ces demandes étaient restées sans réponse, bien que, suivant les circonstances, il n'eût pas manqué de mettre en avant la possibilité d'un débarquement d'Anglais, d'insurgés américains, de Français, de révolutionnaires et de carlistes. On avait fait un accueil semblable aux continuelles requêtes qu'il présentait pour obtenir une augmentation de soldes. Le gouvernement ne fit aucun cas de ces deux ruines, le château et son commandant. Don Modesto était patient, de sorte qu'il finit par se résigner à son sort, sans aigreur et sans ressentiment. À son arrivée à Villamar, il se logea chez la veuve du sacristain, femme tout adonnée à la dévotion, qui avait avec elle sa fille encore jeune. C'était d'excellentes femmes, un peu affectées, raides et intolérantes, mais bonnes, charitables, bien élevées et soignées dans leur tenue. Les habitants du village, qui aimaient le commandant, ou plutôt le commandant comme ils l'appelaient, et qui connaissaient aussi sa détresse, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour la soulager. On ne tuait pas un porc dans une maison sans lui en envoyer un morceau ou une portion de boudin. À l'époque de la récolte, un cultivateur lui envoyait du froment, un autre des pois chiches. D'autres lui donnaient du miel ou de l'huile. Les femmes lui faisaient présent de produits de leur basse-cour, de manière que, grâce à la sympathie générale qu'inspirait Don Modesto, son heureuse gouvernante avait toujours un garde-manger bien garni. loin de s'enorgueillir de tant de faveurs, dont Modeste, dont le caractère était conforme à son nom, avait l'habitude de dire que la Providence se faisait sentir dans le monde entier, mais que son quartier général était à Villamar. Il est vrai qu'il savait répondre à tant de bienveillance en se montrant extrêmement serviable et obligeant pour tous. Il se levait avec le soleil et la première chose qu'il faisait était de servir la messe au curé. Une voisine lui donnait une commission, une autre lui demandait une lettre pour son fils au service, une autre le priait de garder ses enfants pendant qu'elle montait dans la voiture publique. Il veillait au chevet des malades et récitait des prières avec leurs femmes. Enfin, il s'efforçait de se rendre utile à tout le monde en tout ce qui ne pouvait porter atteinte à son honneur et à sa dignité. Et cela n'est pas rare chez les Espagnols grâce à cette inépuisable charité et à cette noblesse de caractère qui ne leur permet pas de thésauriser, mais leur fait donner tout ce qu'ils ont à celui qui est dans le besoin. Les moines et les religieuses chassés de leur cloître, les artisans, les veuves de militaires, les employés privés de leur place peuvent l'attester. La veuve du sacristain mourut, laissant sa fille Rosa, âgée de 40 ans bien comptés, et possédant une laideur qu'on pouvait voir de loin. Ce qui contribuait le plus à la disgracier ainsi, c'était la funeste conséquence de la petite Vérole. Le mal avait sévi particulièrement sur un œil et surtout sur la paupière qui ne pouvait se soulever qu'à moitié, ce qui faisait que la prunelle demi-éteinte donnait à la physionomie un air peu intelligent et peu éveillé qui faisait contraster singulièrement cet œil seulement entrouvert avec son compagnon, lequel, au contraire, jetait des flammes comme un feu de sarment au moindre sujet de scandale, ce qui arrivait souvent. Après l'enterrement, et quand les 9 premiers jours de deuil furent écoulés, Dame Rosa dit à Don Modeste « Don Modeste, je regrette vivement d'avoir à vous dire qu'il faut nous séparer. »« Nous séparer ?» s'écria le brave homme en ouvrant de grands yeux et en mettant sa tasse de chocolat sur la nappe au lieu de la poser sur le plateau. « Et pourquoi donc, Rosita ?» Don Modeste avait eu pendant 30 ans l'habitude d'employer ce diminutif quand il adressait la parole à la fille de son ancienne gouvernante. « Il me semble, répondit celle-ci, que vous ne devriez pas me le demander. Vous comprenez que 2 personnes d'une situation honorable ne peuvent habiter seules ensemble. Ce serait donner prise aux mauvaises langues. » « Et que peuvent dire de vous les mauvaises langues ?» répondit Don Modeste. « N'êtes-vous pas l'exemple du village ? Est-ce qu'on peut compter sur rien avec elle ? Que direz-vous quand vous saurez que vous, avec votre âge, votre uniforme et votre croix, et moi, pauvre femme qui ne pense qu'à servir Dieu, nous sommes le jouet de ces langues empestées ?»« Que dites-vous, Rosita ?» s'écria Don Modeste, frappé de surprise. « Ce que vous venez d'entendre !» Déjà, personne ne nous connaît plus que sous le nom moqueur que nous ont donné ces vauriens d'enfants de cœur. Je suis étonnée, Rosita, je ne puis vraiment croire. Tant mieux pour vous si vous ne le croyez pas, dit la dévote, mais je vous assure que ces mauvais drôles, que Dieu leur pardonne, se disent l'un à l'autre quand ils nous voient arriver tous les matins à l'église pour la messe qui se dit au point du jour. On sonne la messe. Voilà Rosa Mystica et Turi Zavidica qui viennent de compagnie, comme dans les litanies. Ils vous ont donné ce sobriquet à cause de votre grande taille et de votre raideur. Don Modeste resta la bouche ouverte et les yeux baissés. Oui, monsieur, continua Rosa Mystica. C'est la voisine qui m'a rapporté cela, toute scandalisée, et en me conseillant d'aller me plaindre à monsieur le curé. Je lui ai répondu que je préférais souffrir et garder le silence. Notre Seigneur a souffert davantage sans se plaindre. Eh bien, je vous dis, moi, que je ne souffrirai pas qu'on se moque de moi et encore moins de vous. Il vaudra mieux, continua Rosa, prouver par notre patience que nous sommes de bons chrétiens et par notre indifférence montrer le peu de cas que nous faisons des jugements du monde. D'ailleurs, si l'on châtie ces mauvais plaisants, ils feront pire encore. Croyez-moi, Don Modeste. Vous avez raison comme toujours, Rosita, dit Don Modeste. Je sais ce que c'est que les bavards. Si on leur coupait la langue, ils parleraient avec le nez. Mais si, jadis, un de mes camarades s'était avisé de m'appeler Turis Davidica, il aurait pu ajouter « prier pour nous ». Mais comment se fait-il qu'une sainte fille comme vous ait peur des médisants ? Vous savez, don Modeste, ce que disent ceux qui ne pensent qu'au mal ? Entre saint et sainte, le mur le plus épais n'est pas de trop. Mais entre vous et moi, dit le commandant, il n'y a pas même le soin de la moindre cloison. Moi qui porte le poids de tant d'années, moi qui, dans ma vie, n'ai jamais été amoureux qu'une seule fois, et qu'il était d'une ravissante créature que j'aurais certes bien épousée, si je n'avais appris qu'elle avait donné son cœur à un galant tambour-major et que... Don Modeste, s'écria Rose en se redressant sèchement, respectez votre nom et ma situation et laissez là vos souvenirs amoureux. Je n'ai pas eu l'intention de vous offenser, dit Don Modeste d'un ton repentant. Il suffit que vous sachiez que je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais une mauvaise pensée. Don Modeste, dit Rosa Mystica impatientée, en le regardant avec un œil brillant, tandis que l'autre faisait de vains efforts pour l'imiter. Me croyez-vous assez simple pour penser que deux personnes comme vous et moi, sensées et craignant Dieu, se conduisent comme des têtes sans cervelle qui n'ont ni pudeur ni crainte du péché ? Mais dans ce monde, il ne suffit pas de bien agir. Il faut encore garder les apparences en toutes choses pour éviter de faire jaser. Voilà bien autre chose, répondit le commandant. Quelles apparences peut-il y avoir entre nous ? Ne savez-vous pas que celui qui s'excuse s'accuse ? Je vous le dis, répondit la dévote, il ne manquera pas de gens pour murmurer. Et que ferai-je sans vous ? Demanda Don Modeste au navré. Celui qui nourrit les petits oiseaux, dit solennellement Rose, prendra soin de ceux qui ont confiance en lui. Don Modeste, déconcerté et ne sachant où donner de la tête, alla trouver le curé qui était son ami et celui de Rosa, et lui raconta ce qui se passait. Le curé fit voir à Rose que ses scrupules étaient exagérés et ses craintes sans fondement, et que la séparation qu'elle avait projetée donnerait lieu, au contraire, à de ridicules commentaires. Ils continuèrent donc à habiter ensemble, comme auparavant, en paix et avec la grâce de Dieu, le commandant toujours bon et serviable, Rosa toujours soigneuse et désintéressée. Don Modeste n'aurait pu, d'ailleurs, récompenser pécuniairement ses services, car si la poignée de son épée de grande tenue n'eût pas été en argent, il eût bien pu oublier de quelle couleur était ce métal.